présence, 15h. De passage à Lourdes. De passage à Lourdes.
Serge Abad Gallardo, bonjour.
Bonjour.
Je suis vraiment très heureux de vous recevoir dans cette émission De passage à Lourdes. Vous êtes passé à Lourdes à plusieurs reprises ces dernières années et on peut dire que ces passages vous auront profondément marqué. On va se rendre compte que, au fond, Lourdes joue un rôle assez fondamental dans votre retour à la foi. Vous êtes l'auteur de, notamment, deux ouvrages et puis un opuscule. J'ai frappé à la porte du temple, le premier, aux éditions Teki, et puis le second, Je servais Lucifer sans le savoir. Vous racontez 24 années dans la franc-maçonnerie. Vous allez nous parler de cette expérience et puis vous avez aussi écrit « La franc-maçonnerie démasquée » aux éditions La Bonne Nouvelle. Ce retour à la foi, ça vous cueille en quelque sorte en 2011. On va reconstituer un peu le puzzle de cette histoire. Vous allez nous dire par bribes qui vous étiez, comment votre famille vous a élevé pour vous conduire au baptême, à la communion. Mais j'aimerais que vous nous racontiez. Serge Abad Gallardo, quel rôle joue le chapelet de Lourdes un jour dans votre voiture alors qu'il est diffusé à la radio ?
Eh bien, en effet, Lourdes pour moi c'est déterminant. Sans Lourdes, je ne serais pas en face de vous aujourd'hui et je ne serais pas du tout celui que je suis aujourd'hui.
On est en 2011.
Alors en 2011, c'est la première fois où je viens à Lourdes.
Oui.
Et je viens le 18 février 2011 sans savoir que nous sommes le jour de la Sainte Bernadette.
D'accord.
Bernadette a joué un grand rôle. En fait, un certain nombre de saints ont joué un rôle dans ma conversion, dans mon retour à la foi, et notamment Sainte Bernadette et Sainte Thérèse de Lisieux. Et Bernadette m'a certainement appelé ce jour-là. J'ai appris que c'était le 18 février, que sa fête était fêtée à Lourdes et qu'il y avait une procession. Et donc, j'ai décidé l'année suivante de revenir, et je reviens pratiquement tous les ans, le 18 février, en honneur de Sainte Bernadette et de cette rencontre.
Et ce chapelet de Lourdes, que vous écoutez un jour dans votre radio, vous êtes à l'époque dans quel contexte ? Vous êtes qui ? Vous faites quoi ? Vous tombez sur le chapelet, on va voir comment ça se fait.
C'est alors, à l'époque, je suis ce qu'on appelle un haut fonctionnaire, je suis directeur général d'un office HLM, et je suis franc-maçon depuis 24 ans, à cette époque-là, toujours. J'ai pas de rapport particulier à la foi, sauf qu'il y a eu quelques épisodes qui m'ont un petit peu interrogé, mais je suis comme on dit dans la Bible, quelqu'un qui a la nuque raide et je résiste énormément à l'appel du Seigneur. Je suis dans ma voiture et dans un embouteillage, comme je m'ennuie, je fais une recherche automatique d'une radio. La radio qui arrive, c'est RCF Pays d'Aude. Et elle retransmet le chapelet de Lourdes. Et là, pour utiliser un langage un peu jeune, je prends une claque monstrueuse. C'est-à-dire que cette prière, que je ne connaissais absolument pas, même si on m'avait offert un chapelet à ma communion, lequel chapelet était resté dans un tiroir pendant 40 ans, eh bien, je la découvre comme si je découvrais le Requiem de Mozart, la cinquième de Beethoven, quelque chose d'extraordinairement beau. Et je suis touché en plein cœur par cette prière que je décide d'apprendre. Et non seulement je décide de l'apprendre, mais je décide également de venir à Lourdes pour prier cette prière.
Et alors vous arrivez à Lourdes, et là, une autre claque.
Voilà. Là, c'est plus qu'une claque. C'est, alors, s'il y a des francs-maçons qui nous écoutent, d'abord, je leur adresse des salutations fraternelles dans le Christ et non pas dans Hiram. ça me paraît beaucoup plus intéressant. Je reçois, oui, un coup sur la tête et en plein cœur. Donc, quelque chose s'ouvre en moi parce que c'est un an après la première venue à Lourdes, donc nous sommes le 18 février 2012, et là je décide d'aller prier à la grotte. Prier le chapelet, bien entendu, et pour moi c'est une grande joie. Une fois que la prière est terminée, je décide de rentrer retrouver mon épouse et ma fille qui sont à l'hôtel, Et là, mes jambes ne me portent plus, je tombe très brutalement par terre, sans me faire mal, mais de manière très soudaine, très inattendue. J'ajoute qu'à l'époque, je suis un ancien sportif, à l'époque, je continue malgré tout, même si j'ai 55 ou 56 ans, je continue à courir deux fois par semaine, 10 km, dans un temps tout à fait respectable. Donc pour moi, c'est complètement inattendu, et je tombe au sol. Et là, il se passe quelque chose en moi d'extraordinaire, c'est-à-dire que il y a un mélange de crainte, presque une espèce de béatitude, parce que j'ai les yeux rivés sur la Vierge Marie, et la statue de la Vierge, alors je ne vois pas Marie, mais je vois cette statue complètement illuminée, comme illuminée de l'intérieur. Je suis en même temps en colère par des gens qui viennent m'aider pour me soulever de terre, parce que j'arrive pas à me relever. À l'époque, alors peut-être le suis-je encore un petit peu, mais je suis passablement orgueilleux. La franc-maçonnerie n'aide pas à l'humilité, même si elle dit qu'elle travaille à l'humilité, mais c'est un chemin d'orgueil, hein, pour moi en tout cas. Et donc je résiste à ces gens qui veulent m'aider. Mais je n'arrive pas à me lever. Et ça dure plusieurs très longues minutes.
Et vous allez nous raconter tout à l'heure la suite de cette histoire. Mais maintenant, reconstituons ce puzzle dont je parle. Serge Abad Gallardo, vous nous l'avez dit, vous êtes haut fonctionnaire. Bon, maintenant, vous avez pris votre retraite, je crois.
Pas encore.
Bon, vous êtes haut fonctionnaire, vous avez eu des fonctions...
Je ne le suis plus, mais je ne suis pas encore à la retraite.
Voilà, vous avez eu des fonctions un peu partout, en France, outre-mer, oui. Importantes. Mais d'où venez-vous, au fond? Comment on pourrait comprendre la trajectoire que vous avez vécue jusqu'à devenir ce haut fonctionnaire?
Alors, c'est la trajectoire que vivent beaucoup de francs-maçons, à mon avis, ou beaucoup de personnes qui ne sont pas rentrées en franc-maçonnerie, mais cette trajectoire, à mon avis, prédispose à rentrer dans une structure comme celle de la franc-maçonnerie. À savoir, je suis d'une famille catholique, mais qui n'est pas pratiquante. Je suis baptisé, je fais ma communion, mais je me demande même si ça n'est pas par superstition, finalement, ou par habitude. Finalement, je suis, à partir de mon adolescence, assez loin de la foi, et surtout très loin de l'Église. Je ne vais jamais à la messe. Je ne me confesse pas. Je crois vaguement qu'il y a quelque chose, mais pour moi, ça n'est plus Dieu. Ça n'est plus Dieu, la Vierge Marie, j'ai des doutes, et je suis une sorte de d'agnostique, finalement. Je ne suis pas athée, mais je suis plutôt agnostique. J'ai une carrière de fonctionnaire, et vers l'âge de 35-37 ans, quelqu'un de mon entourage, et c'est à peu près dans la plupart des cas comme ça que l'entrée en franc-maçonnerie se fait, quelqu'un de mon entourage, quelqu'un de proche, dont je ne sais même pas qu'il est franc-maçon, m'avoue un jour qu'il est franc-maçon et que il serait peut-être intéressant pour moi que j'y rentre. Et là, j'entre en franc-maçonnerie, espérant peut-être trouver une réponse à des questions que tout le monde se pose, qui sont des questions existentielles. Parce que je crois que ce n'est même pas une question de diplôme ou de foi, mais je crois que même l'athée le plus profond se pose la question de quelque chose. Puisque déjà un athée ne croit pas par définition, c'est donc qu'il a une foi en quelque chose qui n'existe pas selon lui.
Et donc vous entrez en franc-maçonnerie. Finalement, vous grimpez le cursus honorum du franc-maçon pour devenir même dans les hauts grades, voire atteindre les hauts grades. Hein.
Oui, j'ai un parcours classique dans ce qu'on appelle les loges bleues, c'est-à-dire qui sont les loges habituelles, oui. Qui concernent, disons, 80 à 85% des francs-maçons. Et bien, je deviens rapidement, au bout de 3 années, comme tout le monde, je deviens maître, puis officier, jusqu'à devenir vénérable maître d'une loge. Et par la suite, au bout de quelques années, je vais devenir membre des hauts grades. Il faut préciser que ne sont membres des hauts grades qu'environ 15 à 20%, selon les chiffres même de la franc-maçonnerie, je n'invente rien. Donc 15 à 20% des francs-maçons parviennent aux hauts grades et le reste va demeurer dans les loges bleues. Et donc effectivement, c'est lorsque je suis dans les hauts grades que je retrouve la foi, ce qui est assez paradoxal.
Mais c'est compatible, ça ?
Non, absolument pas. J'ai quitté la franc-maçonnerie parce que, justement, ma foi, telle que je la vivais, n'était pas compatible avec mon engagement en franc-maçonnerie. Malgré tous les discours que nous pouvons entendre de la part des dignitaires de la franc-maçonnerie, qui veulent professer qu'on peut être franc-maçon et catholique, moi je maintiens que ça n'est pas le cas. Non seulement je le maintiens en tant qu'ancien franc-maçon, mais je me réfère également à ce que dit le magistère. L'Église est très claire sur le sujet, et on ne peut pas être franc-maçon et catholique quelle que soit l'obédience et le rituel dont il pourrait s'agir.
Votre premier livre, c'est « J'ai frappé à la porte du temple ». Le second, c'est « Je servais Lucifer sans le savoir » aux éditions Teki. Et puis cet opuscule, « La franc-maçonnerie démasquée » aux éditions La Bonne Nouvelle. Ce que je vous suggère, Serge Abad Gallardo, à ce stade de notre émission, c'est que nous marquions une pause. Et puis juste après, je vous interroge justement sur cet ouvrage que vous écrivez, le second où je servais Lucifer sans le savoir. Le titre est un peu, enfin, peut sembler un peu provocateur. En tout cas, il interpelle fortement. Et vous nous direz pourquoi vous avez choisi ce titre et puis qu'est-ce qu'il y a derrière. Et vous nous raconterez la suite de votre conversion. Après, vous êtes écroulé devant la grotte, sur vos jambes, alors que vous étiez bien sur vos jambes, normalement, bon sportif, vous nous le disiez. Qu'est-ce qui s'est passé, la vie familiale, comment vous faites ce récit, et puis comment vous vivez votre vie de foi? Je vous propose tout cela dans quelques instants. À tout de suite.
Présence.
Vous souhaitez joindre Radio Présence? C'est très simple. Par mail, contact@radioprésence.com. Par courrier, 4 rue des Feuillants, 31300 Toulouse. Par téléphone au 05 62 48 63 00. Et enfin, vous pouvez interagir sur nos réseaux sociaux, Facebook ou Twitter.
Passage à Lourdes.
Notre invité aujourd'hui, c'est vous, Serge Abad Gallardo. Merci de vous arrêter quelques minutes dans ce
Merci
studio.
De m'avoir invité, surtout.
Vous passez à Lourdes pour une conférence et puis vous avez l'habitude de venir à Lourdes. D'ailleurs, vous aimez y venir en février.
Oui.
Autour du 11 février ou du 18 février, c'est-à-dire la fête de Notre-Dame de Lourdes ou la fête de Sainte-Bernadette.
Oui.
Il y a d'ailleurs un mois de février, celui de 2012, qui est fortement marquant dans votre parcours, dans votre conversion. Vous nous le racontiez dans la première partie de cette émission. Mais là, je vous interroge avant de nous dire votre vie de foi, votre ascension dans la foi. Pourquoi écrire ce livre « Je servais Lucifer sans le savoir » pour raconter vos 24 années de franc-maçonnerie et puis comment cette franc-maçonnerie, finalement, elle vous a enfoncé quelque part, elle vous a maintenu dans un univers un peu peut-être matérialiste. C'est satanique, la franc-maçonnerie?
Alors, la franc-maçonnerie n'est pas satanique. Mon propos, c'est de qualifier la franc-maçonnerie de luciférienne, en tout cas par certains de ses aspects, au sens où Lucifer est l'ange révolté contre Dieu. Et la franc-maçonnerie amène à une révolte contre Dieu. Alors, il faut s'entendre sur ce qu'est Dieu, hein, parce que les francs-maçons, pour ce qui est des obédiences qui sont déistes, ont une sorte de Dieu, qui est le grand architecte de l'univers. Mais c'est une force cosmique, c'est un naturalisme, une sorte de monisme. Tout est Dieu, finalement. Ce qui est logique, puisque la franc-maçonnerie est avant tout relativiste. En face de ça, eh bien, il y a des gens qui croient en certaines religions. Alors, bien entendu, nous parlons de la religion catholique, mais il y en a d'autres. Que Dieu, mais c'est pas un grand architecte de l'univers. Et en tout cas, pour ce qui nous concerne, Dieu est trine, il est Père, Fils et Esprit Saint. À ma connaissance, le grand architecte de l'univers n'est jamais venu mourir en croix. Donc, il y a une différence essentielle dans la conception de Dieu en franc-maçonnerie et dans la foi chrétienne. Ça, c'est une première chose. Il y a également une notion d'obéissance à Dieu dans la foi chrétienne que l'on ne retrouve pas dans la franc-maçonnerie vis-à-vis du grand architecte de l'univers. Le grand architecte d'univers, en fait, c'est un dieu conceptuel. Alors, je parle de Lucifer parce que il y a un certain nombre de symboles en franc-maçonnerie qui renvoient à cet orgueil qui va permettre à l'homme de vouloir se réaliser lui-même en tant que parcelle de divinité. Voilà. Moi, je ne pense pas être une parcelle de divinité. Je pense simplement qu'il y a une grande différence entre le créateur et la créature. La franc-maçonnerie ne fait pas cette différence.
Mais au fond, dans la franc-maçonnerie, vous étiez heureux, Serge Abad Gallardo. En plus, vous étiez en pleine réussite matérielle, enfin, d'après ce que vous m'avez dit un peu avant de commencer cette émission. Tout va bien. On comprend pas bien aujourd'hui pourquoi vous en êtes arrivé là. Je me permets de vous provoquer. Ah
mais vous avez entièrement raison. Je n'ai pas quitté la franc-maçonnerie véritablement par dépit. La franc-maçonnerie, on peut y être très bien. Moi, je comprends que des gens soient francs-maçons. D'ailleurs, je ne les juge pas. Je leur dis simplement quelque chose. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Quand vous êtes en franc-maçonnerie, surtout si vous êtes dans les hauts grades, si vous avez été officier, bah, y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la fierté. On n'est pas à genoux devant Dieu, si vous voulez. C'est tout à fait le contraire. Et on passe généralement 2 soirées par mois à des tenues maçonniques au cours desquelles on va retrouver des amis donc on va appeler frères ou sœurs. Et puis ça peut être très sympathique finalement, même très agréable. Mais dès lors que j'ai retrouvé la foi, pour moi ça n'était plus un bon chemin. Ça n'était plus possible. Quelqu'un qui a profondément la foi dans notre Dieu, et qui par ailleurs veut avoir un engagement sincère en franc-maçonnerie, ne peut pas vivre les deux chemins. Ça n'est pas possible. Je ne peux pas croire dans un Dieu qui soit multiforme comme le grand architecte de l'univers, et dans un Dieu qui soit trine comme le Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Les deux conceptions vont se heurter, et je vais finir par une espèce de schizophrénie spirituelle. Si je suis sincère, bien entendu. Je crois que le plus beau compliment qui m'a été fait dans le chemin qui est le mien aujourd'hui, c'est une dame que j'ai croisée à Narbonne d'ailleurs, et qui est une élue de Narbonne, dont bien entendu je ne dirai pas le nom, et qui m'interpelle en disant « mais vous avez tort, moi je suis franc-maçonne, et d'ailleurs j'ai croisé cette dame à l'église juste avant la messe, et je viens à l'église, vous voyez bien ». Et donc je lui explique 2-3 choses, et je prie pendant l'Eucharistie pour qu'elle discerne. Et à la fin de la messe, elle vient de me voir et elle m'embrasse, elle me dit « Vous avez raison, on ne peut pas être franc-maçon et catholique. Moi, je suis les deux parce que ma foi en Dieu est faible et mon engagement en franc-maçonnerie est également faible. » Et je crois que cette femme a tout compris.
Aujourd'hui, vous témoignez à travers vos livres, hein, et puis à travers des conférences. Et donc, inévitablement, vous relisez votre histoire. Enfin, vous la racontez, vous la relisez. Quand vous relisez votre histoire, est-ce que vous trouvez que, au fond, le bon Dieu, il a frappé souvent à votre porte? Vous diriez ça?
Oui, oui, il a frappé souvent.
Et vous fermiez la porte?
Alors, je l'entrouvrais.
Ah bon?
Je l'entrouvrais, je voyais certaines choses. Bien sûr, je parle de voir au sens spirituel. Mais je me disais, ça ne suffit pas. Vous voyez à quel point j'étais orgueilleux. Tout simplement parce qu'un franc-maçon, le franc-maçon que j'étais, avait soif de connaissance. Mais cette connaissance, c'est une connaissance avec un C majuscule. C'est celle du secret ultime des choses. Et donc je m'adressais à Dieu un peu comme un franc-maçon s'adressait au rituel ou au grand architecte d'univers. Je veux progresser vers cette connaissance. Et je ne croirai en toi que lorsque j'aurai l'illumination suprême. C'est-à-dire lorsque je serai devenu moi-même un Dieu. Jusqu'au jour où j'imagine que l'Esprit-Saint a dû peut-être penser qu'il fallait œuvrer d'une autre manière, et qu'il a certainement compris, moi j'ai aucun doute là-dessus, le jour où mon cœur était prêt à s'ouvrir.
J'aimerais que vous nous racontiez quand même l'histoire de votre chapelet, ce chapelet, l'objet de piété,
oui, oui.
Que vous avez toujours.
Oui, bien sûr.
Combien de fois avez-vous cherché à vous en débarrasser?
Alors, ce chapelet, on me l'offre à ma communion. C'est une dame très pieuse qui est amie de ma famille. Parce que même si mes parents n'allaient pas à l'église, on avait quand même des amis prêtres et des amis très, très religieux, très croyants. Mais c'était pas la pratique, voilà. Et alors, à ma communion, cette dame vient m'offrir ce rosaire, qui est un rosaire qui porte en plus une relique de Thérèse d'Avila. Et c'est un rosaire qui est fabriqué avec des pétales de rose compressés. Donc c'est un très bel objet qui sent la rose de manière éternelle. Et je le mets vite au fond d'un tiroir. Parce que pour moi, il ne me sert à rien. Alors, je l'ai bien entendu, on était un petit peu ébahis devant cet objet. Mais en plus, il y avait une relique. Mais il ne me sert à rien. Et alors, il est resté 40 ans dans un tiroir. Je l'ai offert à mon fils est pilote de ligne. Je l'ai offert parce que lorsqu'il est devenu pilote et qu'il a commencé à travailler, bien évidemment, on a toujours un petit peu de soucis, même s'il ne tombe pas tous les jours en avion, mais c'est quand même un métier un petit peu dangereux, comme celui de chauffeur de taxi, à la limite. Hein. On a plus facilement un accident en avion qu'en restant derrière un bureau. Et donc, je lui offre en disant, il te portera chance. Voilà. Il le prend peut-être par obéissance filiale, parce qu'il n'a pas la foi. Et puis au bout d'un an, il me le ramène, il me dit « Écoute, je ne l'emmène même pas dans le cockpit, il vaut mieux que tu le gardes. » Je l'ai offert également à une autre personne, qui l'a gardé quelque temps, et puis à chaque fois, ce chapelet m'est revenu. Et moi, évidemment, je me précipitais pour le remettre au fond de ce tiroir. jusqu'au jour de cette fameuse émission que j'entends à la télé, ou pardon, à la radio, dans ma voiture, et là, je me dis, bon, il y a quelque chose qui me parle, là. C'est pas possible. Donc, j'ai ressorti ce rosaire. Maintenant, je le garde précieusement. Je ne l'ai pas sur moi, j'en ai d'autres, mais j'ai commencé à prier avec ce rosaire.
Et donc maintenant, dans la dernière partie de cette émission, là, j'aimerais que peut-être nous essayions de découvrir comment vous vivez avec cette foi aujourd'hui, après, l'après Lourdes, là, vous vous écroulez sur vos jambes à la grotte, on est en 2012.
Avril 2012,
vous racontez au retour à l'hôtel à votre épouse ou à vos proches qui vous accompagnent?
Ah non.
Vous avez caché tout ça?
Je ne dis rien, parce que j'ai peur qu'on me prenne pour un fou, et d'ailleurs j'ai tellement peur qu'on me prenne pour un fou que je pense moi-même que j'ai un problème physiologique ou psychiatrique.
Vous consultez des médecins,
donc? Ah oui, je fais... Alors, mon médecin généraliste, je ne lui parle pas de la chute, mais je demande à faire des analyses pour un contrôle, parce que je pense que peut-être j'ai un problème de cancer, de sclérose en plaques, un problème grave. Et les analyses reviennent sans aucune anomalie. Donc je suis rassuré là-dessus, et je demande à consulter un psychiatre. Alors, je consulte ce psychiatre, et puis je ne lui parle pas tout de suite de cet événement. J'avais des problèmes professionnels à l'époque, hein. On peut comprendre que, comment dire, mon revirement spirituel a entraîné un certain nombre de désagréments dans mon milieu professionnel. Oui. Je n'en dirai pas plus, parce que je ne veux pas non plus accuser certaines personnes, voilà, mais les gens auront tous compris de quoi je veux parler. Et donc, comme j'ai des soucis, je consulte ce psychiatre, parce que, évidemment, je suis un peu contrarié. Et donc, je lui parle de mes problèmes professionnels essentiellement. Et puis, au bout de 4 ou 5 mois, lorsque ce psychiatre me connaît suffisamment, là, j'ose lui parler de ce qui m'est arrivé à Lourdes. Et je lui pose clairement la question. Je lui dis, est-ce que je ne suis pas dans un délire métaphysique ou mystique? Est-ce que je... Et là, le psychiatre me répond clairement, écoutez, moi, ça fait 4-5 mois que je vous connais, que je vous suis une fois par semaine. Vous n'avez pas de névrose, à ma connaissance, ou pas plus que la moyenne des gens. Vous n'avez pas de psychose. En tout cas, vous n'êtes pas dans le cadre d'un délire mystique. Et je ne m'explique pas pourquoi vous êtes tombé devant la Vierge à Lourdes, parce que moi-même, je suis bouddhiste, je ne suis pas catholique, me dit-elle. Mais c'est une histoire qui vous appartient, et en tout cas, moi, médicalement, je n'ai pas de diagnostic à poser. Donc, à partir de là, je suis quelqu'un de très rationnel. J'ai une formation d'architecte et de juriste. Donc, bon, c'est assez étrange, hein, c'est peut-être un peu bicéphale, mais j'ai un cerveau droit sensible, ou l'inverse, droit sensible et gauche peut-être un peu rationnel. Donc, je me dis, mais si c'est pas de l'ordre naturel ou physiologique, il y a autre chose. Et comme le bon Dieu m'a fait un certain nombre de clins d'œil, je me dis, c'est de l'ordre surnaturel. Donc j'en parle avec des amis, en particulier avec une amie qui se reconnaîtra, qui est aumônière, et je fais partie de son équipe de bénévoles, et elle m'explique que ça s'appelle le repos dans l'esprit. Je n'avais jamais entendu parler de cette histoire de repos dans l'esprit, d'intervention de l'Esprit Saint. J'avais pratiquement jamais lu la Bible, d'ailleurs. J'avais fait ma communion, mais comme on passe son bac pour bachoter, quoi, finalement. Et donc, je croyais qu'elle se moquait de moi. Et donc, un jour, je rencontre un prêtre, et je lui parle de tout ça. J'ai un prêtre qui a joué un peu le rôle de directeur spirituel pendant plusieurs années, parce que j'ai eu besoin d'avoir quelqu'un qui me guidait, parce que j'étais perdu. Et donc il me dit, ça s'appelle le repos dans l'esprit. Donc le prêtre m'a paru plus sérieux, finalement. Je suis désolé pour cette aumônière qui est devenue d'ailleurs une amie, en qui j'ai toute confiance. Je me confie beaucoup à elle. Et là, je pose une question au prêtre. Il me dit, mais regardez, oui, le mont Tabor, hein, il tombe face contre terre. Lorsqu'on vient chercher Jésus, pareil, ils tombent tous à la renverse. Mais c'est ça, le repos dans l'esprit. Et donc là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui s'était passé quand même. Voilà. Et puis depuis, effectivement, il y a eu plein de choses.
Oui, et depuis, vous vivez comment avec ça, avec cette foi? Vous témoignez? C'est ça. Alors, votre mission aujourd'hui?
Oui, je témoigne. J'ai écrit ces ouvrages à la fois pour les catholiques, bien entendu pour ceux qui ne sont ni catholiques ni francs-maçons, hein, mais essentiellement pour les catholiques et aussi pour les francs-maçons. Pour que les catholiques sachent qu'en franc-maçonnerie, il n'y a pas que des suppôts du diable. Il y a des gens qui cherchent, sincèrement, et que ces gens-là se sont fourvoyés. Les francs-maçons sont des gens qui méritent qu'on les aide, et qui méritent surtout qu'on leur parle de l'amour du Christ, parce qu'en loge, on n'en parle pas. Et ça, c'est une grande lacune. J'ai écrit également pour les francs-maçons, pour qu'ils sachent qu'on peut trouver un trésor dans le cœur du Christ. Et que ce trésor-là, on ne le trouvera jamais en loge. on peut avoir tous les rituels, on peut avoir tout le symbolisme de la franc-maçonnerie devant les yeux, on ne trouvera jamais l'amour du Christ avec ce moyen-là. C'est impossible. Sauf, bien entendu, si on ouvre son cœur au Christ lui-même. Mais le Christ n'est pas présent en loge, je peux vous le dire, je ne l'ai jamais rencontré. J'ai rencontré Hiram, qui est un autre personnage. Voilà. Et donc, effectivement, je vis aujourd'hui à la fois un grand bonheur et une grande peine. Je vis un grand bonheur parce que j'ai trouvé quelque chose de magnifique. L'expression habituelle, c'est de parler d'un trésor, mais c'est bien plus que ça. On peut pas quantifier un trésor, on peut le quantifier. Cette foi m'a amené devant quelque chose qui est une lumière véritable, qui n'est pas la lumière de l'initiation, c'est la lumière de l'amour de Dieu pour nous. Et en même temps, j'ai beaucoup de peine, parce que je vois la résistance des personnes à cet amour, et c'est une chose difficile à vivre. Je fais des conférences, parfois je suis invité chez des personnes, et j'ai été invité l'été dernier, il y a un an donc à peu près, chez une personne du côté de Perpignan, et ses enfants sont des gens qui croient en rien, alors qu'elle et son mari sont très croyants. Donc évidemment, il y a eu un repas, on a discuté de plein de choses, et les non-croyants ont joué le rôle des athées, bien entendu, parfois avec un petit peu de virulence, mais ça ne me gêne pas du tout. Et à la fin du repas, sa fille me dit « Excusez-moi, hein, j'ai été un petit peu percutante ». Et là, je me suis mis à rire, je lui ai dit « Mais pas du tout, vous me gênez pas du tout, j'étais comme vous ». Je vous comprends très bien, j'étais comme vous. Voilà. Et donc, effectivement, de voir des gens qui n'ouvrent pas leur cœur à la Vierge Marie et à son fils Jésus-Christ, ça me fait de la peine, parce que je ne sais pas comment faire. Alors je sais bien que c'est l'Esprit Saint qui convertit et pas moi, mais j'essaye modestement de lui donner un petit coup de pouce.
Oui, et notamment à travers ces ouvrages qu'on vous doit, « J'ai frappé à la porte du temple », le premier, le second « Je servais Lucifer sans le savoir » aux éditions Teki, et puis « La franc-maçonnerie démasquée » aux éditions La Bonne Nouvelle. On vous souhaite un bon séjour à Lourdes, vous êtes un peu chez vous ici, vous vous sentez, j'imagine, très bien, à l'aise.
Je pense que dès que je suis dans un endroit où se trouve la Vierge Marie, je suis chez moi.
Merci pour cette rencontre, Serge Abad Galardeau. Au revoir et à bientôt.
Au revoir et merci de m'avoir invité.
Présence, présence. De passage à Lourdes.
C'est le prix d'un journal quotidien. À combien estimez-vous le prix d'une présence à vos côtés 24 heures sur 24? Donnez.
Le Seigneur se souvient de sa promesse en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Mon âme exalte le Seigneur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Saint-Esprit, pour les siècles des siècles.
sa promesse en faveur d'Abraham et de sa race à jamais.